France Inter.
Oui, bonjour Frédéric et l'équipe de Blockbuster. Comme tout le monde, je suis très triste que Blockbuster doit s'arrêter. Tu aurais été pour moi pendant toutes ces années comme mon grand-père qui me conseillait des lectures ou comme mon papa qui me faisait découvrir des films popcorn, comme mon meilleur pote qui me dit quelle série regarder. Alors je me dis en fait que j'ai eu de la chance de te rencontrer, de croiser ton chemin. Et maintenant, comme les étudiants du cercle peuvent être disparus, je monte sur ma table et je te dis « Oh capitaine, mon capitaine !»
Bonjour Frédéric, moi je voulais juste te dire que quand j'ai commencé à écouter Blockbuster, je commençais aussi une relation avec un grand fan de Final Fantasy. Je n'y connaissais rien du tout et grâce à toi, j'ai fait ma culture, j'ai créé du lien avec lui et ça fait 5 ans qu'on est mariés. Donc merci Fred et je t'aime mon chéri.
Bonjour Frédéric, moi je te suis depuis tes débuts dans Blockbuster et j'ai passé des excellents moments. Je te laisse ce message parce que je suis devant Arkane, League of Legends. Quelque chose que j'aurais absolument jamais regardé si tu ne m'avais pas guidé pour regarder ça. J'ai regardé la saison 1 que j'ai trouvé très belle et puis là je suis en train de voir la saison 2 qui est juste magnifique et qui est un moment exceptionnel. Et c'est grâce à toi et je crois que c'est ça Blockbuster. Donc merci pour tout.
Et voilà Fred, après 10 ans, c'est la dernière. Et je pense que vu le sujet d'aujourd'hui, le Club Dorothée, c'est une bonne idée de finir de la même façon, avec une petite chanson. Et même à l'autre bout du monde, quel que soit l'endroit où l'on soit, aussi vrai que la terre est ronde, un jour on se retrouvera. Même s'il faut franchir des montagnes, marcher dans la neige et le froid, puisque l'amour nous accompagne, un jour on se retrouvera.
To be or not to be, not to be.
J'ai rejoint France Inter il y a 10 ans, le lendemain des attentats de Charlie Hebdo. 2 jours à peine après mon arrivée, je me retrouvais avec des tonnes d'humoristes talentueux à faire des sketchs devant les caméras de France 2 pour dire combien le rire et l'irrévérence ne plieraient jamais le genou devant l'obscurantisme quel qu'il soit. Vous savez, le fameux esprit Charlie. Je me spécialisais dans les sketchs politiques à l'époque et je ne cache pas que faire de la radio à ce moment-là, ça n'était qu'un moyen pour moi de me faire connaître et de remplir ma salle. Tout d'abord la bande originale de Nagui, puis la joie de retrouver les copains avec qui je partageais les plateaux, Alex Vizorek, Frédéric Fromet, Guillaume Meurice. Quand la direction de l'époque, Emmanuel Perrault, Yann Chouquet et Laurence Bloch m'ont laissé les coudées franches pour créer l'émission que j'aurais aimé écouter en tant que geek, j'étais loin d'imaginer que ça durerait aussi longtemps. Que je rencontrerai des gens aussi passionnants et que chemin faisant, je rejoindrai une communauté d'auditeurs et d'auditrices qui sont comme autant de copains que j'ai jamais vraiment vus. Durant ces 10 ans, sur cette station, il s'est passé beaucoup de choses. Mes enfants ont grandi, bien sûr, j'ai perdu des proches, le cancer s'est invité dans mon foyer, mais une chose n'a jamais changé. J'ai toujours pu compter sur le soutien et l'affection de nombreuses personnes sur cette station et aussi parmi les auditeurs. Ils se reconnaîtront. Aujourd'hui, une page se tourne, mais le livre ne se ferme pas. À vous tous et à vous toutes, depuis 10 ans, je n'ai qu'un seul mot qui me vient à l'esprit, c'est merci.
France Inter, Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Et maintenant, en direct de la Régie 7, réalisé par Super Noël Le Guen, voici le Club Dorothée Noël. Avec tous vos dessins animés préférés, Cap Danger, les Bobo Bops, les Chevaliers du Zodiac, votre nouvelle série Salut les Musclés, avec vos animateurs préférés Ariane, Chaki, Cormier, Patrick et Dorothée. Salut. Mais quelle ambiance, quelle fête.
1, 2, 3, 4.
Ah oui.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Minet, joyeux anniversaire.
Fais une bise Ariane, fais une bise Ariane.
Le petit Minet est devenu grand.
Je te fais une bise aussi.
Eh ben oui, ça vous fait rigoler, vous avez raison. Merci. C'est l'anniversaire de notre grand Minet. Bon, alors, sans plus tarder, voici Cap Danger.
Dorothée est un monument pour toute une génération, comme le prouve la vitesse à laquelle elle a rempli les deux dates au Palais du Congrès en avril prochain. En janvier dernier, l'émission Merci Dorothée a réuni 4,4 millions de téléspectateurs sur TF1, gage de la popularité toujours intacte de l'animatrice. Mais au-delà de la nostalgie, Dorothée, c'est aussi une histoire de la télévision française, de Récréa 2 au Club Dorothée, mais également l'histoire d'un système monumental incarné par AB Productions. Pour revenir sur celle qui a posé les bases de nombre d'intervenants et intervenantes de Blockbuster en 10 ans, je suis accompagné de Pascal Laffine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur éditorial de la maison d'édition Delcourt et vous avez travaillé au sein d'AB Productions, notamment sur la programmation des programmes japonais.
Exactement, et pendant longtemps.
Avec nous, Michael Frison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien Libération et vous avez créé la chaîne YouTube Génération Club d'eau lorsque vous avez travaillé chez AB Productions.
Oui, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec nous, Axel Danlos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la communication du groupe JLA, société de production créée par Jean-Luc Azoulay, cofondateur de la société AB Productions et qui coproduit les prochains concerts de Dorothée au Palais des Congrès.
Tout à fait.
Un homme heureux.
Tout à fait. Très heureux.
On est allé au Midem, à Cannes, et au Midem, Claude et moi, vous mangez une pizza. Et j'ai attrapé une hépatite virale à cause d'une moule. Je me suis retrouvé au lit pendant 40 jours, et donc au lit, je regardais la télé, et j'ai vu Dorothée qui animait une émission qui s'appelait Dorothée et ses amis.
Bonjour mes amis. Le gentil petit fantôme Casper va nous entraîner dans un sauvetage difficile. Mais je n'ai pas le droit de t'en dire plus et je préfère regarder avec toi cette nouvelle aventure de Casper le petit fantôme.
Oh Casper le petit fantôme, le héros des enfants, toujours souriant avec ses amis, vous oublierez tous vos ennuis.
Vous venez d'entendre un extrait du documentaire La télé par AB avec Jean-Claude Azoulay. Et là, je vois Pascal Laffine qui danse. Ça vous rappelle des choses, Casper le petit fantôme ?
Bah oui. Après, comme je suis là depuis longtemps, puisque vu que j'ai travaillé là-bas, donc effectivement, je suis vieux, j'ai connu beaucoup de générations de séries de tout début jusqu'à mon départ en 2007.
Michael Frison, comment a démarré sa carrière ? Comment Dorothée a démarré sa carrière ?
Elle démarre à l'ORTF en 1973. Elle démarre sur la télé en noir et blanc. Elle présente des émissions pour enfants avec une marionnette qui s'appelle Blablatus. Alors quand on regarde les images, c'est la préhistoire de la télé. Et puis ensuite, Dorothée, elle devient speakerine sur Antenne 2. Donc elle annonce les programmes là où maintenant il y a des bandes annonces. Et Jean-Luc Azoulay la rencontre dans les circonstances qu'il a raconté là, et il fait d'elle une chanteuse. Ils ont créé un label 3 ans avant, en 1977, qui s'appelle AB Productions, qui est une maison de disques qui ne marche pas du tout au début. Ils font du disco, ils ont des artistes comme Nadine Expert ou Hurricane Fifi qui n'ont pas marqué les esprits. Et ils se cherchent une star, et ils voient Dorothée à la télé, et ils se disent « ça va être ma star ».
Tout ça à cause d'une moule mal digérée, donc.
C'est la légende que raconte Jean-Luc Azoulay, ouais, ouais. Et il fait un premier album avec Dorothée qui s'appelle Dorothée au pays des chansons. Entre-temps, elle est devenue l'animatrice de Récréa 2.
Oui, mais n'allons pas si vite, parce qu'initialement, elle ne se destinait pas forcément à l'animation d'émissions pour enfants, et ni même à la carrière de chanteuse.
Non, Dorothée, elle faisait des concours de théâtre, elle avait une fibre artistique, mais c'est un peu le hasard qui a guidé sa vie, puis un jour, elle démarre la télé comme ça, repérée par Jacqueline Joubert, qui dirigeait la jeunesse sur le service public.
La maman d'Antoine Decaune.
Exactement, la maman d'Antoine Decaune.
Ce qui explique d'ailleurs le lien Jackie, les enfants du rock, puis...
Oui, tous ces gens-là se connaissaient.
Ouais, oui, il y avait une sorte de petit cercle qui s'est créé.
Voilà. Une petite guerre aussi, à un moment.
Oui, évidemment. évidemment. Et d'ailleurs... toute cette période de Récréa 2, on a vu apparaître des personnalités qui sont encore très actives, mais dans des domaines totalement différents. Notamment, je pense à Zabou Breitman. Ouais. On a eu aussi Cabu, ouais, le dessinateur de Charlie Hebdo, qui officiait à Récréa 2.
Oui, il dessinait à Récréa 2 tous les mercredis, il dessinait en direct pour les enfants. Et surtout, il faisait les pochettes de disques de Dorothée. Si vous avez le temps, allez voir les pochettes de disques de Dorothée sur Spotify ou si vous avez des exemplaires. Les pochettes de Oula Menteuse, de Pour faire une chanson, de Allô, Allô, Monsieur l'ordinateur, c'est des œuvres d'art. C'est absolument superbe. Le dessin de Cabu, le long nez, etc. Il a vraiment créé une œuvre pour elle, un personnage. C'est assez unique.
Axel Danlos, on l'a entendu, Jean-Luc Azoulay a joué un rôle majeur dans l'histoire de Dorothée. Mais quel type de producteur c'est ? Parce que quand on voit l'empire qu'il a créé ensuite, on se dit qu'il avait tout pour naître aux États-Unis sur la côte californienne.
Non, mais c'est exactement ça. Mais Jean-Luc se présente plutôt comme un artisan, pour le coup. Il a été formé par Sylvie Vartan. Enfin, il a travaillé aux côtés de Sylvie Vartan, dont il a été l'assistant, puis le manager et producteur dans les années 70. Quand Sylvie décide de partir aux États-Unis, il se retrouve sans artiste. Et c'est là qu'il rencontre Claude Berda, qui commence à réfléchir et qui monte à production. Mais c'est plutôt un artisan. Moi, je le vois au quotidien, hein, quand il écrit les chansons, encore pour Hélène ou pour Elsa Esnou, son artiste.
Parce qu'il continue d'écrire les chansons encore
et puis,
aujourd'hui.
Je peux vous dire qu'il manque pas d'inspiration. Hein. C'est, quotidiennement, il a une chanson à me faire écouter. Je dirais pas à l'ancienne, mais il aime se présenter comme ça, en fait. C'est pas... L'américaine, c'est un côté un peu industriel, ce qui n'est pas forcément Jean-Luc. J'arrive pas à trouver mes mots, mais c'est la force de ce qu'il a fait au fur et à mesure avec TF1, où c'est devenu... Pardon, j'arrive pas à m'exprimer, mais...
C'est l'émotion.
Voilà, c'est ça. C'est que TF1 a amené un côté industriel dans tout ça, en fait, à la fin. Mais à l'époque, c'est plutôt un artisan qui écrit un album selon des inspirations qui lui viennent, en fait. Il raconte que la chanson L'ordinateur, il l'a écrite sur un bout de table après un déjeuner.
Oui, il a la chanson « Allô, allô, monsieur l'ordinateur » qui préfigure Tinder avant même Tinder.
Tout à fait.
Pascal Laffine, vous qui avez fait une bonne partie de votre carrière à AB Productions, quelle était l'ambiance sur ces plateaux à ce moment-là ?
Alors, moi, j'ai vécu ça en tant que fan qui était au milieu d'une boîte où il y avait 1500 personnes. C'était vraiment assez grand, il y avait tout le temps du monde. Pour moi, c'est une période magnifique, parce que j'ai fait beaucoup de choses là-bas. Je traînais beaucoup sur les plateaux, voir l'émission. C'était assez impressionnant, l'émission du mercredi.
Oui, parce que c'était... alors là, on est déjà passé à TF1. À ces moments complètement fous d'une émission qui commence à 8h le matin et qui termine à 18h.
Exactement, avec la petite coupure du journal, mais c'était surtout l'émission de l'après-midi, puisque le matin, c'était plus, on va dire, plus fermé.
Oui, c'était intime.
Voilà, et alors que l'après-midi, là, c'était sur le plateau 1000, et là, c'était hyper impressionnant, avec tous les enfants sur une sorte de comment je pourrais dire
gradin,
ça
ouais.
Oui, de gradin.
Voilà, et le truc qui était assez impressionnant, c'est que les enfants ne voyaient pas les dessins animés. Donc il y avait tout le temps, entre les moments où il y avait des pubs, etc., des gens qui poussaient les télévisions pour les mettre pour que les enfants puissent un peu regarder.
Oui, moi je me souviens, à Vendeuvre, dans la banlieue de Nancy où je vivais, il y avait eu une émission... en délocalisation, où ils étaient venus au centre culturel André Malraux filmer, je crois que c'était encore Récréa 2 à l'époque, et Dorothée était venue, mais c'était blindé. Et comme je le disais à mes collaborateurs en préparant cette émission, je pense que, sans exagérer, qu'à ce moment-là, elle aurait demandé aux enfants d'envahir la Pologne, on envahissait la Pologne. C'est-à-dire que Dorothée, c'était une déesse, hein.
Et tellement, j'avais même des gens qui m'appelaient pour me demander « Oui, il y a moyen que tu fasses venir mon fils ou mon petit-neveu dans l'émission ?»
Et donc, comment est né le Club Dorothée ? Parce qu'on a cette période Récréa 2, où Récréa 2 était déjà une émission très très importante, hein, avec Télématin, c'était vraiment les deux programmes phares d'Antenne 2. Et comment s'est passée cette jonction vers TF1, Michael ?
Quand TF1 est privatisé, en 1987, ils recherchent tous les animateurs les plus populaires des autres chaînes. Et ils font appel à Dorothée, puisque donc, c'est la star des enfants sur Récréa 2. C'est aussi la star des enfants via le disque, via les concerts. Et donc, ils se disent, on va faire venir Dorothée pour qu'elle anime le mercredi. Et petit à petit, elle récupère des émissions quotidiennes, tous les jours, elle continue les concerts, etc. Mais leur but, c'était d'avoir une star, et ils sont allés chercher la star la plus évidente, Dorothée, et ça se fait en l'espace de quelques semaines. Ils contactent Dorothée au printemps 87, et à la rentrée 87, elle est sur TF1 en direct. Dorothée est privée d'antenne pendant 2 mois, entre le moment où Antenne 2 apprend qu'elle part sur TF1, elle arrête l'antenne immédiatement, et puis 2 mois après, elle est au Club Dorothée.
Parce qu'elle la filme.
En plus, pendant cette petite période, on oublie Karen Cheryl.
Oui. Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Et ça s'est fait vraiment avec une transition où les membres de l'équipe sont venus petit à petit. Et puis après, quand tout le monde s'est installé, il y a Dorothée qui est arrivée d'un coup.
Mais est-ce qu'il y avait une star jeunesse équivalente à l'époque de Dorothée ?
Chantal Goyard ?
Oui, c'est vrai.
Il y avait Chantal Goya, mais Chantal Goya, elle n'avait pas de télé. Elle n'avait que le disque, alors elle faisait un peu de télé.
Elle avait Bécassine, sa cousine.
Elle avait Bécassine.
Et elle faisait des super spectacles immenses.
Avec Bandy Panda. Ouais. Ouais.
Mais Dorothée, elle a capté l'air du temps. Chantal Goya, c'était très les personnages. Il y avait un côté un peu le merveilleux. Je vais dire un peu naphtaline, sans que ce soit méchant. Dorothée...
Salé.
Voilà, mais Dorothée, elle arrive... Pardon, excusez-moi. Dorothée, elle arrive avec une autre énergie, elle arrive avec un spectacle de variété, elle parle aux enfants naturellement, comme on se parle tous. Elle apporte une énergie très années 80, années 90 avant l'heure. Elle a su capter l'air du temps avec AB Productions.
Dorothée n'est pas qu'une animatrice pour enfants, c'est surtout une chanteuse qui a le record pour une artiste féminine de concerts donnés à Bercy. On écoute, évidemment, c'est d'actualité. Vive les vacances par Dorothée.
La vie est dure, il fait chaud dans la voiture, on s'en va à l'aventure.
Sur France Inter.
AB, c'était Hollywood. 50 000 mètres carrés de plateau, il y avait 7 tournages de sitcom en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait 7 plateaux de tournage. Le Mets les abeilles, Premier baiser, Les filles d'à côté, Les garçons de la plage, Hélène et les garçons, etc. 7 plateaux en même temps. Le Club Dorothée sur un autre plateau, plus le disque avec un studio son top niveau, avec des enregistrements quasi tous les jours. Dorothée, Hélène, plus tous les héros des sitcoms. C'était incroyable. Il y avait 1500 personnes qui couraient dans tous les sens. On passait d'un plateau à un autre. C'était incroyable.
Un second extrait du documentaire La télé parabée, on y entend Stéphane Joffre, assistant réalisateur et producteur. Alors j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Que représentait le Club Dorothée en termes de parts de marché, d'audience et d'heures d'enregistrement, Michael?
En termes d'heures d'enregistrement, on est à 20 à 30 heures par semaine.
C'est du jamais vu.
C'est du jamais vu. Il y a peut-être un équivalent moderne qui s'appelle Cyril Hanouna, mais la comparaison s'arrête là.
Voilà, je ne verrai pas la Pologne pour ça.
Dorothée, elle est à l'antenne le mercredi matin, le mercredi après-midi, avant l'école le matin, après l'école, pendant les vacances.
On est d'accord que c'est une époque où les parents, le temps d'écran des enfants...
Ah, moi, je peux vous dire que ma mère n'a jamais loué une nounou. Hein. Oui. La nounou s'appelait Dorothée, c'était pas cher. Voilà. Et en plus, on la payait, donc on lui donnait de l'argent. En termes d'audience, on est entre 2 à 5 millions de téléspectateurs, 7 millions quand elle fait des primes rock'n'roll show.
7 millions.
Oui, c'est assez ouf, c'est quand même assez ouf. Et en plus de ça...
Y a aujourd'hui, à part un événement sportif ou peut-être une intervention présidentielle, mais c'est assez rare d'avoir des chiffres pareils.
Oui, bah, elle avait la chance d'attirer le public à elle, de faire les choses plutôt bien et d'avoir une concurrence assez nulle. Le service public a tenté de faire des contre Dorothée, c'était assez pathétique, jusqu'au moment où arrivent les mini-cums et où là, le curseur bouge un peu. Mais oui, Dorothée, elle a attiré le public d'une façon assez folle et régulière, parce que vraiment, ses audiences sont là tous les jours. Enfin, moi, le jour où je revois ma vie défiler, je sais qu'il y a 50% de ce que je verrai, ce sera des images du Club Dorothée.
Et là, je sais que j'entends des auditeurs de France Inter dire « Eh bien, pauvre garçon !» Pascal Lafine, En termes de rayonnement, on n'a jamais eu d'animateur télé. Bon, on a cité Cyril Hanouna, mais qui, c'est une autre époque qui occupait autant de place dans le paysage audiovisuel français.
Après, c'est aussi qu'elle faisait beaucoup de choses. Parce que en plus de la musique, elle a même participé à un moment donné à des séries de Sentai.
De Sentai, Jiraya, voilà. Je me souviens.
Exactement. Donc il y avait aussi le côté actrice. Elle faisait pas mal de choses. Donc effectivement, elle avait beaucoup d'heures d'antenne. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque. Il y en avait même très très peu. Et donc c'est vrai qu'on la voyait beaucoup. C'est à cause de ça qu'il y a eu quelques petits problèmes. Entre autres, on se rappelle de Ségolène Royal à l'époque. Justement parce qu'elle touchait les enfants et il ne fallait pas gagner de l'argent.
Une omniprésence qui devenait un petit peu gênante.
Exactement. Donc il fallait s'en prendre à elle à un moment donné, par un moyen ou un autre.
Axel Danlos, pendant la chanson, tout à l'heure, vous parliez aussi du fait que au commencement du Club Dorothée, il y avait Disney qui aussi cherchait à s'implanter un peu plus fort en France.
Oui, alors Disney était sur France 3 à l'époque, et à la fin des années 90, le parc a été signé pour la création à Marne-la-Vallée, et donc ils ont cherché un point d'ancrage, enfin une chaîne puissante, TF1 l'été, et c'est là qu'ils ont commencé à nouer un partenariat avec TF1. Les premiers mois, c'est Dorothée et Ariane qui ont animé le week-end, je crois.
Ouais, spécial Disney.
Les spéciales Disney. Et très vite, Disney a repris la production sous l'unité de Dominique Cancien, qui s'occupait des divertissements. Et c'est devenu un peu la promo Disney. Comme on critiquait beaucoup la promo AB, des chanteurs AB chez AB, chez Dorothée du moins, c'était la même chose chez Disney, en fait. Le parc était promu chaque semaine avec la chanteuse qui était la chanteuse de Disney, qui était donc Anne, pardon. Je ne retrouvais plus le nom. C'était un peu... ils étaient très puissants, en fait, mais Dorothée restait la leadeuse, en fait. Oui. Entre guillemets, leadeuse, c'est pas un beau joli mot.
Et alors Dorothée, c'est une personne, mais elle était entourée par des acolytes qui sont devenus quasiment aussi cultes qu'elle. Je pense évidemment à Corbier, Patrick Simpson-Jones, Ariane. Comment s'est constitué ce groupe, Jackie? Comment s'est constitué ce groupe qui en plus sentait l'amitié au-delà de ce qu'on pouvait voir à l'écran?
C'est un groupe qui démarre à Récré à deux. Corbier, Jackie, Ariane, c'est des gens qu'elle croise à Récré à 2. Patrick Simpson-Jones aussi. Il y a une partie de l'équipe de Récré à 2 qui suit Dorothée sur TF1. Et après, sur TF1, se crée une bande supplémentaire, c'est-à-dire les musiciens de Dorothée,
qui sont les fameux musclés.
Sont physiquement sur le plateau de Dorothée. Ils sont derrière elle avec leur orchestre, ils jouent en direct, ils font les jingles. Ils ont leur propre chanson, évidemment. Et après, quand AB Productions se dit qu'il faut pas forcément tout acheter au Japon, mais aussi créer ses propres programmes. C'est là qu'arrivent les sitcoms AB à partir de 1989. Donc, Les Musclés ont leur série. Après, il y a Premier Baiser, Hélène et les Garçons, Le Miel et les Abeilles. Et tous ces gens-là forment une famille autour de Dorothée. Il y a 150 personnes, en fait, autour de Dorothée, physiquement à l'écran. Les comédiens,
c'est le Dorothée-verse.
C'est le Dorothée-land, c'est son lord à elle. Et d'ailleurs, tout ce monde se trouve réuni dans quelque chose que les fans de Dorothée aiment bien. C'est un épisode spécial de sitcom qui s'appelle Famille Fou Rire, qui passe à Noël 93, si je ne dis pas de bêtises, oui. Ou 92, où tout le monde est réuni et tout le monde se rend compte que chacun a un lien.
C'est Avengers Endgame et
exactement,
Infinity.
Exactement, okay, voilà, c'est Marvel. Voilà. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui me tient à cœur aussi, c'est que tout ce monde, on le retrouve, vous parliez de la télé, du disque, mais il y a aussi la presse. Dorothée, elle avait le Dorothée Magazine, où a travaillé notre amie. Dorothée, elle avait aussi un autre magazine qui s'appelait le Club Dorothée Jeux. Donc en fait, quand il n'y avait même plus la télé, il y avait encore du Dorothée à la maison.
Oui, c'est puis il y avait la carte de membre pour avoir son anniversaire qui apparaissait, mais à une vitesse express.
Il fallait mettre 400 noms en 45 secondes.
Moi, j'ai des copains du quartier qui étaient très déçus de jamais voir leur nom, mais qui ne s'étaient jamais inscrits. Donc, mais voilà, c'est... C'était quelque chose.
Si vous avez une carte de membre, elle vaut cher aujourd'hui, je vous le dis.
Waouh.
Ouais.
Après, AB à l'époque faisait beaucoup de choses, parce qu'il y avait AB Disque, AB Vidéo, pour sortir les DVD. Les DVD, ça n'existait pas à l'époque.
Les VHS.
Les CD, puisque j'ai un petit peu bossé avec eux à un moment donné. C'est d'ailleurs en partie comme ça que j'ai démarré mon activité chez Tonkam. C'est parce qu'à l'époque, AB Vidéo avait acheté des films d'animation japonais, dont Demon City Shinjuku.
Oui.
Ils avaient fait. Mais qu'ils n'avaient pas vendu. Ils n'avaient pas trouvé de créneau, etc. Et du coup, j'avais récupéré en fait tous les films que j'avais vendus pour AB à Tonkam.
D'accord.
Et du coup, je me suis un peu lié d'amitié un peu plus avec eux là-dessus. Et c'est à partir de là que la partie édition, d'une certaine façon, s'est créée. Parce que le fait de vendre ça, ça leur a donné aussi envie de créer une partie édition. Et c'est aussi comme ça que ça a démarré.
On est ensemble dans ce dernier blockbuster pour parler du Club Dorothée, mais pour le moment, on écoute Everybody Loves par David Byrne.
Océane Zerbini, je suis la créatrice du podcast de pop culture Lemon Adaptation Club, et de temps en temps, j'interviens aussi dans des podcasts de l'émission First Print, animée par Arnaud Kikou et par Corentin. C'est un souvenir un peu mignon que je partage aussi avec mon copain, c'est que quand j'ai fait l'émission sur les Sims, pour dire bonjour à Frédéric, j'ai dit Soul Soul Frédéric. Soul Soul qui veut dire bonjour en simlish, donc la langue des Sims. Et en fait, maintenant, je pense que tous les 6 mois, mon copain me rappelle que j'ai dit Soul Soul Frédéric à la radio et qui me remet le passage en question de l'épisode tout le temps. Et je trouve ça très mignon parce que parler en simlish à la radio, c'est... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça témoigne aussi, je trouve, de ma passion aussi pour ce dont je venais parler, en fait.
Amazing Fred, nous te remercions pour ces années phénoménales. Dommage qu'Inter reste aveuglé.
Bonjour Frédéric, c'est Marine. Voilà, c'est le dernier jour de l'émission. Alors, je voulais te remercier pour toutes les années. Je t'ai découvert en balade avec ma petite en tant que bébé qui ne dormait que en tant que bébé. Donc tu m'as sauvée pendant des heures de promenade. Merci à toi, merci à toute ton équipe, à tous tes intervenants qui étaient toujours de qualité. À bientôt j'espère et au revoir.
Everybody cries, everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone. In every restaurant, everyone we know, and everything you want. everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. You love in every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of play. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.
Avec Frédéric Sigrist.
Tu es déjà mort et tu ne le sais pas encore.
Ah oui? C'est ce que tu crois, le combat a à peine commencé.
Moi, honnêtement, je trouve ça un peu ardos. C'est vrai que les gens ont dû s'en plaindre, ce que je comprends, quelque part. Et là, on a eu, ils ont engagé une équipe de psy qui avait des bacs plus 8 et qui restait toute leur vie dans des 3 mètres cubes à visionner tout ce qui était un peu violent ou sexe.
Non !
Il y a une équipe de psychologues qui est intervenue parce qu'il fallait quand même continuer la série qui rapportait beaucoup d'audience. Alors comment faire dans ces cas-là? Il faut censurer. Et donc on a un épisode qu'on a retrouvé en archive qui a subi 99 coupes psy. Donc un épisode qui doit durer 20 minutes, maintenant il dure 16 minutes. Il y avait aussi les adaptations qui étaient vraiment édulcorées et abracadabrantes, un peu comme dans Nicky Larson, qui très souvent va dans des love hotels avec des jeunes filles très sexy, et finalement ça devient en version française un restaurant végétarien. Voilà. Alors, il n'y a aucune scène censurée, mais l'adaptation est complètement abracadabrante.
Ouh, c'est affreux, mais but à peur des chats.
Vous avez sans doute reconnu Ariane qui témoigne dans le documentaire La Télé Parabée, ainsi que Pierre Favier, à l'époque responsable éditorial de la chaîne Manga. Pascal Laffine, aujourd'hui, tous les médias généralistes parlent d'un phénomène manga, d'une génération Goldorak, etc. Mais en fait, tout vient de là. Beaucoup, beaucoup vient de là.
Ah bah, en fait, ça a été vraiment un chemin compliqué, puisque même quand le Club Dorothée s'est arrêté, pendant toute une période, il n'y avait plus rien à la télé, parce que tout le monde était anti-dessin animé japonais, entre autres, fallait pas en entendre parler, et c'est là que on va dire, le manga s'est développé en underground, et c'est aussi pour ça que ce que j'appelle la génération Pokémon, c'est une génération qui n'est pas très manga aujourd'hui. À mon boulot, chez Delcourt, il y a des gens qui ont à peu près 30, 37-38 ans qui ne regardent pas du tout de dessins animés japonais, ça les intéresse pas, ils sont très BD, parce que c'est la période où il y avait tellement pas de dessins animés à la télé que du coup, le seul dessin animé japonais, c'était Pokémon à l'époque, et du coup, on a perdu cette génération. C'est une génération perdue.
Une génération sacrifiée.
Voilà.
Mais et moi, quand je les vois, je leur jette des pierres.
Et puis après, c'est reparti en vidéo, en... Voilà. Mais effectivement, c'est vrai qu'on est sorti à la fin du Club Dorothée d'une période bénie, où on avait vraiment beaucoup de choses. On pensait que ça allait continuer, et puis ça s'est arrêté d'un seul coup. Mais on a eu quand même beaucoup, beaucoup de séries. Moi, je suis arrivé au tout début des années 90, et c'était l'après-première génération. La première génération, c'est en gros tous les premiers dessins animés qui passaient dans le Club Dorothée, c'est des dessins animés qui étaient en diffusion à la télé en 1986 au Japon. Donc Dragon Ball, Ken, etc. C'était en cours de diffusion. Et en fait, moi, j'ai commencé l'après cette génération, justement, pour faire la continuité avec des séries comme Sailor Moon, Ranma, etc. Puis ça a évolué. Il y a eu plein de séries qui étaient en stock à la Bandothèque, des séries qui ont été jamais diffusées, parce que dans ces années 86, il y avait des séries comme Borgman qui avaient été achetées, et il y avait, qui étaient même doublées pour certaines, mais qui n'avaient jamais été diffusées à la télé.
Axel Danlos, ce grand nombre de séries japonaises, comment Jean-Luc Azoulay s'est dit, bah tiens, on va ramener tout ça en France?
En fait, quand ils sont arrivés chez TF1, le stock de dessins animés était assez pauvre. Il y avait beaucoup de choses françaises, genre Minipousse, français, je crois que c'était américain Minipousse, pardon. Mais le stock était très faible, et donc il a fallu trouver des choses déjà prêtes. Donc ils se sont envolés au Japon. Parce qu'ils avaient aussi la culture de Recréa 2 où il y avait déjà beaucoup d'animés, manga. Il y avait Cobra, il y avait eu Goldorak.
Et puis il y avait eu des collaborations franco-japonaises avec
Exactement.
Ulysse
31. Voilà. Donc ils sont partis là-bas et c'est ce que Claude dit dans le doc La Télé Parabée. Il dit j'ai un peu acheté tout ce qui bougeait. Et après ils ont fait le discernement quand ils sont revenus en disant qu'est-ce qu'on met à l'antenne. Donc Dragon Ball est arrivé très vite à l'antenne, je crois en avril 88, suivi des Chevaliers du Zodiac. Ça a été des dessins animés qui ont été très puissants dès le départ.
Mais d'ailleurs, parce que à chaque fois que je le dis, les jeunes générations peinent à me croire, mais initialement, les Chevaliers du Zodiac avaient bien plus de succès que Dragon Ball, première époque.
Ah oui, oui.
Après, c'est aussi Dragon Ball, c'était enfant, très petit, c'était... mignon, et ça passait le mercredi matin. Donc tout le monde ne pouvait pas voir Dragon Ball.
Dragon Ball était très aventure, enfin, dans le côté, la quête des 7 boules de cristal, là où les Chevaliers avaient le côté aventure, mais aussi le combat, le bien contre le mal. Et puis, les Chevaliers du Zodiac, il ne faut pas oublier une chose, il y a eu les jouets. C'est-à-dire que ça a été un énorme succès aussi via les jouets qui ont été développés par
Bandai.
Avec
les boîtes magnifiques que les collectionneurs ont toujours.
L'armure des chevaliers, c'était très très fort. Et puis après, il y a eu Juliette, je t'aime. Enfin, il y en a eu tout un lot qui ont été un vrai succès.
Et quand tout d'un coup, les autorités, les gens raisonnables, ont commencé à se pencher sur ce que les enfants voyaient et ont commencé à vouloir légiférer, comment ça a été perçu en interne?
Alors, je n'étais pas là à l'époque, moi.
Alors,
Pascal Lafine.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils s'adaptaient systématiquement, parce qu'on ne voit que quelques trucs, mais en réalité, ça revenait régulièrement. Mais Jean-Luc Azoulay et Claude Berda avaient cette faculté de s'adapter systématiquement. Donc c'est comme ça qu'est arrivé les psys pour rassurer les parents, etc. Il y avait aussi des censures qui étaient faites sur certaines séries.
Bien avant,
c'était d'ailleurs un truc qui m'enrageait parce que les premières censures étaient faites directement au moment du doublage. Donc il y avait des séries, on ne pouvait pas avoir les versions intégrales. Du coup, quand ça sortait en vidéo, du coup, ces parties-là, c'était impossible de les récupérer.
Et parce que ça avait déjà été censuré à la base.
Voilà, à la base. Alors que quand les psys sont arrivés, c'était juste avant les diffusions. En fait, ils faisaient un PAD et le psy regardait la série. Il disait « Oh, ça va choquer, ça va choquer ». Il coupe. On faisait le PAD qu'on mettait en diffusion. Et puis, quand il y avait une autre diffusion... Eh ben, il y avait un autre psy qui regardait, ce qui fait que du coup, il y a des séries où d'un épisode à l'autre, c'est pas les mêmes censures. Mais, dans le générique de début, c'est le cas de Dragon Ball Z, on retrouvait des scènes, mais qui avaient été coupées dans l'épisode précédent, qu'on retrouvait dans le résumé du début d'épisode.
Ah oui, donc en fait, oui, on avait coupé, mais pas partout.
Voilà, exactement.
Alors, il y a une personne que je voudrais tout particulièrement remercier lors de ce dernier Blockbuster, car c'est un peu la maman de Blockbuster, ou le papa, parce qu'on n'est pas genré, hein, la réalisatrice Céline Hila,
qui m'a appris les bases du métier d'animateur radio. C'est une femme exceptionnelle, avec un caractère très fort, à qui je dois beaucoup et avec qui on partageait une passion pour le titre qu'on va écouter, si jamais j'ai pas encore de nouvelles surprises, Californie de Bagarre.
Eh ben, salut Frédéric, je m'appelle Dao, comme Étienne. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours baigné dans les jeux vidéo, la lecture sous toutes ses formes, ou le cinéma, etc. quoi. J'ai aujourd'hui quand même 46 ans, et oui, ça avance. Mais bref, ton émission a toujours été un peu comme du pain béni. Lors de mes grosses journées de garde au travail, journées un peu longues, ça me faisait vachement bien. Donc un immense merci à toi et à toute ton équipe pour le boulot. Hâte de te revoir, autrement ou ailleurs. Plein de bonheur, mec, pour la suite. Love.
Frédéric, je voulais te dire, en fait, on a grandi ensemble. Alors, toi, t'as grandi plus que moi, mais voilà. Et puis, je voulais te dire merci de nous avoir présenté, nous, tous les petits personnages, aussi bien moi, oui, que Son Goku, tu vois, et à travers la voix de Brigitte. Et merci à toi. Et je te dirai un nuage magique. Tadadadadada.
Je m'appelle Mousse et je vis ici. On dirait pas comme ça, mais je viens de Californie. Oui, mon daron parle bien français et moi presque anglais. Oui, ma daronne est fière de moi et de la JSK. Je me souviens quand tout petit, l'école terminée, cartable jetée, je monte sur ma board pour skater tout l'été. Comme ma daronne par la fenêtre me crée Mustapha. Va faire ton sac, chérie, car demain on part au neblé.
Et puis je lève mon verre et mon majeur en l'air. Au futur, au passé, à Paris, à Alger, à ceux qui m'aiment ou pas, à ceux qui sont comme moi. Mustapha, c'est moi, alors qui fais-moi, alors qui fais-moi, 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 qui fais-moi,
qui fais-moi,
qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi,
qui fais-moi,
qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi.
Je m'appelle Mousse, ne sois pas surpris. Undercover comme un rocker, je te raconte ma vie. Je suis un skater, je pars à Belloum et je vis la nuit. Je serai toujours au whisky loup, koum koum, Kabylie parmi. C'était curial ou tizi, croissant au beurre ou chabi. Entre les deux, un holly, Paris, Alger, Tizi. C'était curial ou tizi, croissant au beurre ou chabi. Comme un pauvre, je vis ma vie, Tahel Kabylie parmi.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Les gens qui savent tout sur absolument tout, qui sont toujours ravis de donner leur avis. Tous ces gens qui se croient plus intelligents que toi,
ces gens-là sont les
ceux qui parlent de musique sans connaître la musique. Ceux qui parlent de télé sans regarder la télé. Ceux qui veulent décider ce que vous devez aimer.
Ces gens-là sont les. Tant que vous aimerez écouter nos chansons, ces gens-là.
Un extrait des Musclés et la valse des... Comme quoi, les polémiques à la télévision se suivent et se ressemblent étrangement. Voilà, donc c'était la réponse des Musclés à quel type de polémique, Axel ?
Il y en a eu plusieurs. Alors, les Musclés, ils ont répondu à deux polémiques. La première, c'était Antoine Decaune. Une chanson qui s'appelait Antoine Decaune, qui était donc liée aux attaques d'Antoine Decaune sur Canal+, vis-à-vis de Dorothée, et la valse
ce qui est particulièrement ironique quand on sait que...
Oui, mais c'était plutôt une petite guéguerre qu'il y avait de la part d'Antoine, enfin, à l'époque de la part d'Antoine, puisque Jacqueline Joubert, qui était sa maman, donc dirigeait les programmes jeunesse d'Antenne 2, et il y a eu un petit imbroglio lors du départ de Dorothée sur TF1. Jacqueline devait partir sur TF1, mais finalement ça s'est pas fait. On ne sait pas trop si elle s'est vexée du fait qu'elle partait, qu'elle quittait le service public, ou si c'est Jacqueline qui voulait pas quitter le service public. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Et donc il y a eu ces petites attaques d'Antoine, et après il y a eu beaucoup d'attaques de la presse Libération, Télérama, je crois qu'il y avait aussi éventuellement France Inter à l'époque.
Oh, et possible,
donc
hein.
Jean-Luc avait répondu en écrivant encore une nouvelle chanson, La Valse des... Et c'était en rapport au dessin animé qui était diffusé dans l'émission, puisque beaucoup de gens critiquaient la qualité des mangas, beaucoup de gens critiquaient aussi la qualité de l'animation parfois. Il y avait énormément d'attaques à l'égard de Dorothée, de AB Productions, de TF1. En fait, Dorothée était un peu le paratonnerre de TF1. Mmh. C'est-à-dire que, plutôt que d'aller attaquer TF1, on attaquait Dorothée. Et ce que j'expliquais à Mickaël hier, j'ai relu beaucoup d'articles de presse qui sont parus à l'époque des polémiques, mais même en 90, en 80, sur toutes les différentes époques. Les attaques sont très, très virulentes à l'égard de Dorothée, mais sur son physique, sur son âge, sur le côté mercantile d'AB Productions, mais c'est elle qui cristallise tout.
Oui.
Et on ne s'attaque pas à Jean-Luc Azoulay, on ne s'attaque pas à Claude Berda, on s'attaque à Dorothée, c'est plus facile.
Oui, j'ai longtemps travaillé avec Anne Romanoff elle vit le même genre de choses, c'est-à-dire que c'est souvent des attaques sur le physique pour cacher autre chose.
Dorothée avait 38 ans et dans une interview on lui dit « Vous avez 38 ans, est-ce que vous pensez à la chirurgie esthétique ?» 38 ans. Mmh. On parle de son poids dans les interviews. Vous pesez 46 kilos. Enfin, qu'est-ce que ça apporte Et donc après, il y a...
Alors qu'on parle quand même d'une artiste jeunesse qui avait déjà été récompensée par des Victoires de la Musique, par des 7 d'or, et qui faisait plus d'entrées que Johnny Hallyday à une époque et Michel Sardou.
Oui, et qui était très populaire et qui avait quand même la confiance des parents, Dorothée. Hein. Il y a eu une étude à la fin du Club Dorothée quand AB a réfléchi à faire Dorothée Chanel, qui était très très positive hein, sur l'image de marque de Dorothée. Elle n'était pas... l'émission s'était arrêtée, mais ce n'est pas pour autant que l'image de marque de Dorothée était abîmée. Au contraire, les parents avaient quand même confiance en elle. Donc c'était vraiment lié un peu une sorte d'intelligentsia que Jean-Luc n'aime pas du tout et contre laquelle il s'est vengé plusieurs fois en chanson.
Grâce aux Musclés.
Grâce aux Musclés.
Elle s'est, après l'arrêt du Club Dorothée par TF1, qui a voulu un petit peu réformer ses programmes jeunesse, elle a choisi de complètement couper les ponts avec les médias pendant un certain temps. Comment on explique ça ? Parce qu'elle avait largement l'assise pour pouvoir prétendre à un retour n'importe où.
Oui, mais je pense qu'elle a eu besoin aussi de faire une pause, parce que mine de rien, elle a fait 24 ans d'antenne quotidienne, enfin quasi quotidienne. Puis l'époque du Club Dorothée, elle est quand même très intense. Faut pas oublier que Dorothée, elle est à l'antenne tous les jours. Quand elle tourne pas, elle enregistre des albums. Quand elle fait pas des albums, elle fait des séances photo. Et quand elle fait pas tout ça, elle part en tournée. Ou elle fait Bercy. Donc je pense qu'à un moment donné, il était temps aussi, elle avait peut-être envie aussi de se poser. Et peut-être que la pause a duré plus longtemps que prévu, mais...
Mais alors je pose là une...
Elle n'était pas à la recherche de la notoriété puisqu'elle l'avait déjà en fait.
D'accord.
Vous voyez, elle a pas eu besoin d'aller faire de la télé-réalité. Elle a eu des envies de fiction qui ne se sont pas faites. Mais bon, c'est comme ça.
Mais je repense à toute cette période auquel j'ai évidemment participé en tant que spectateur, consommateur, etc. Mais si Jean-Luc Azoulay a écrit les chansons, s'il a écrit les scénarios des sitcoms AB Productions, s'il a produit tout ça, il est aussi crédité en tant qu'auteur ?
Bien sûr.
Sous pseudo, Jean-François Pory ?
D'accord, ok. Sûr, donc quand... c'est une rente. Il peut vivre 15 vies avec ce qu'il a. Ce
je
qu'il
pense,
a.
Oui.
D'accord. Et quand on voit la vitesse à laquelle Dorothée a rempli l'annonce de son prochain concert au Palais des Congrès, quand on voit même les scores d'audience encore faramineux durant l'émission Merci Dorothée sur TF1, comment on explique ça ? Est-ce que c'est juste de la nostalgie ou c'est parce qu'en fait, elle n'a jamais été remplacée dans le cœur de ses quadragénaires ?
Je pense que déjà, il y a la nostalgie qui joue, ça c'est certain, c'est l'enfance. Dorothée, c'était une sorte de protection. Vous vous rappelez vos mercredis après-midi ou vos mercredis matins. Moi, je regardais ça chez mes parents ou chez mes grands-parents. Ma grand-mère regardait avec moi, ma grand-mère écoutait les chansons de Dorothée. Et puis, à côté de ça... Je pense que son image, le fait d'avoir été très rare et de ne pas s'être bradée pendant toutes ces années où elle a été absente, fait que son image est restée intacte en fait. Et le manque a créé, mine de rien, ça a créé le manque. Ça a travaillé sur son absence a créé un manque qui fait que, en fait, quand elle revient, c'est un événement.
C'est un événement.
Dès que je suis avec Dorothée quelque part, enfin, qu'elle croise des gens, les gens sont à deux doigts de pleurer, en fait. C'est très impressionnant. C'est très intense. Hein.
Michael ?
Je partage ça, bien sûr. Et y a quelque chose qu'il ne faut pas retirer à Dorothée, c'est sa personnalité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de bienveillant, qui a toujours été à hauteur des enfants, sans les prendre de haut, sans leur parler comme des débiles. Vous parliez des réponses aux polémiques tout à l'heure, Antoine Decaune, etc. Dorothée ne faisait pas ça, en fait. Jean-Luc Azoulay, il était très malin, il donnait ça aux musclés, il donnait ça à pas de pitié pour les croissants, etc. Mais Dorothée, elle montait pas sur le ring. Dorothée, elle disait « j'ai pas peur des coups », etc. Mais elle restait bienveillante, une image positive. Elle était finalement bien plus responsable que ce que certains en disaient. Et on peut l'accréditer de ça aujourd'hui, bien sûr.
Merci beaucoup, merci Pascal Lafine, merci Michael Frison, merci Axel Danlos d'avoir été avec nous pour évoquer le Club Dorothée. C'est la fin de cette émission définitivement. Donc il y a plein de monde dans le studio. Voilà. Non mais je vais le faire. Je vais quand même la faire. Ce au revoir. Donc je viens d'avoir un bisou d'Ali Rebbi. Oui. Là, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui disent oh j'aurais aimé être là. Et j'ai vraiment beaucoup de monde à remercier cette fois-ci. Tout d'abord les réalisateurs et réalisatrices qui ont depuis 9 ans supporté mon rapport conflictuel à la ponctualité. Céline Hila, Charles De Silia, Étienne Bertin. Ici présent, avec qui ça a été un réel plaisir de travailler et de le voir évoluer en grand professionnel qu'il est devenu. J'aurais jamais pu préparer cette émission sans aide, et l'avantage c'est que j'ai toujours été entouré par des personnes plus brillantes que moi. Sophie Hoffman, qui officie brillamment sur Carnet de Campagne, mais également Jeanne Paravert, Manon Rax, Marie Mougin, Sarah Masson ou encore Aurore Mansip. Mais je veux évidemment avoir un petit mot particulier pour Lysiane Larbani et Benjamin Ducy. Qui, depuis tant de saisons, en plus d'être brillants, ont su accompagner de leur humour et de leur gentillesse, des fois un peu vacharde, tous nos enregistrements. Les stagiaires aussi, cette formidable main-d'œuvre très qualifiée et si peu payée. Amazir, Amadaïn Guest, tu as été impeccable. Mention spéciale à Ali Rebbi, voilà, qui fait des bisous, celui sans qui cette émission n'existerait pas, car c'est son émission Pop Fiction et ses conseils qui m'ont permis de tenir la distance. Merci Ali. Mais le service public, c'est aussi des tonnes et des tonnes de techniciens comme Florian de Rimini aujourd'hui, mais qui travaillent comme des dingues. Et je le dis pour vous fournir des émissions audibles toute l'année. Des documentalistes de l'INA qui nous ont si souvent filé des coups de main. Des programmateurs musicaux qui ont su s'adapter à mes goûts, au ton particulier de l'émission. Thierry Dupin, Djoubaka, Jean-Baptiste Audibert et surtout Muriel Pérez qui nous a été enlevé beaucoup trop tôt et à qui je pense très fort aujourd'hui. Tout ça pour dire aux auditeurs et auditrices, ne prenez jamais le service public pour un acquis. Vraiment, cet audiovisuel tel qu'il existe, c'est encore une chance, donc ne le gâchez pas. Et qu'est-ce qui se passe pour moi désormais ? Eh bien, tout d'abord, je suis de retour sur scène au point virgule le 13 septembre. Avec. Je fais ma promo, j'en ai plus rien à foutre. Avec mon nouveau spectacle 39-45 et ensuite au théâtre Le Funambule tous les lundis à partir de novembre. Et dès le mois d'octobre,
j'annonce le lancement de ma nouvelle émission hebdomadaire intitulée « Sa place est dans un musée » sur la plateforme du Studio 17 à qui l'on doit aussi l'excellente émission « La Bonne Auberge ». C'est une toute nouvelle aventure pour moi dont je vais vous parler en long, en large et travers via ma newsletter. Toutes les infos sur mon compte Instagram @frédéric.sigrist. Ben oui, il faut bien faire sa promo. Et à la question « To be or not to be », eh bien, c'est fini.
Bravo!
Merci. Merci. Bonjour! C'est 1, 2, 3, 4,
le club de la télé!
Les amis, Kiki mon hamster est malade.
Oh,
qu'est-ce qu'il a, le Kiki à Dédé? Il a le cancer des dents.
Oh.
Il mange comme un dog et il est gros comme un veau.
Alors les enfants, si vous voulez tout savoir sur le cancer des dents des hamsters, et ben Dorothée, elle a fait une cassette avec le docteur Crin et ils vous disent tout sur cette maladie horrible qui tue les animaux dans d'horribles souffrances.
Renaud Besbourdier, j'écris pour le cinéma chez Cinématraque et Écran Large et je suis scénariste et dramaturge au sein de la troupe Les Wonderbiches. Je voudrais dire à Fred que je sais qu'il connaît les réponses à toutes ses questions pendant son émission et que ça doit être dur d'écouter les autres dire ce que lui, il a envie de dire parce qu'il aime parler. Et très simplement, je voulais dire que je l'aime, lui et tous les gens qui font cette émission.